Bonjour à tous et bienvenue dans Évasion Romanesque. Cette semaine, c'est le dernier roman de Guillaume Musso qu'une amie m'a offert récemment que je vous propose de découvrir. La vie secrète des écrivains. Dois-je de nouveau vous présenter l'auteur ? Je ne pense pas. Ce n'est pas la première fois que je vous invite à plonger dans l'un de ses livres. Entrons dans le vif du sujet. Nathan Fowles est un écrivain devenu culte après seulement 3 publications. Sans raison apparente, il se retire sur une île méditerranéenne, loin de la cohue de la société, et annonce poser définitivement la plume, au grand désarroi de ses lecteurs. Ce qui le pousse à une retraite anticipée, personne ne le sait. 20 ans plus tard, Raphaël Bataille veut suivre les traces de son auteur fétiche et envoie son manuscrit à plusieurs maisons d'édition qui refusent en bloc son projet. Il décide de demander son avis à Nathan Fowles et pour cela s'embarque sur l'île Beaumont, au large des côtes varoises, se faisant embaucher dans la librairie insulaire. Mais son idole n'est pas abordable et l'accueille à coups de fusil, histoire de protéger son intimité. Dans le même temps, Mathilde Monet, jeune journaliste, trouve le moyen d'aborder l'écrivain, au moment même où les autorités découvrent un cadavre sur la plage. Arrivées et départs sont interdits et une enquête est menée. Mais Mathilde n'est pas étrangère à tout cela, non. Elle est même persuadée que Nathan Fowles est loin de n'être qu'un auteur et que sa disparition soudaine du devant de la scène à l'hégémonie de la gloire n'est pas sans raison. Et ce secret, elle compte bien le percer. Mais le célèbre écrivain se doute lui aussi de quelque chose et finalement prend contact avec son fan Raphaël pour l'aider à comprendre ce qu'il se trame et l'envoie fouiller la location de Mathilde. Mathilde Monet claqua la porte de son pick-up, alluma le moteur et fit demi-tour sur le chemin graveleux. De l'extérieur, la chambre d'hôte dans laquelle vivait la journaliste ressemblait à un cottage anglais. C'était chez une vieille Irlandaise que s'était installée Mathilde. Pour venir jusqu'ici, j'avais renoncé à mon vélo et loué un scooter électrique que j'avais dissimulé dans un fourré. Son pick-up s'éloigna de la propriété et tourna vers l'ouest, un endroit où la portion de la route était plate et rectiligne. J'attendis qu'elle soit hors de ma vue pour sortir de ma planque, escalader les rochers et me diriger vers le cottage. Un rapide coup d'œil autour de moi me rassura. Il n'y avait pas de voisins proches. Pour être honnête, je n'étais pas très à l'aise avec l'idée de faire quelque chose d'interdit. Toute ma vie, j'avais été prisonnier volontaire du syndrome du bon élève. Je n'étais pas un fêtard, il me fallait mes 8 heures de sommeil par nuit et depuis 2 ans, je travaillais tous les jours, week-end et vacances compris, soit pour écrire mon livre, soit pour effectuer des boulots alimentaires qui payaient mon loyer. J'avançais donc vers l'entrée en essayant de prendre un air dégagé. Tout le monde m'avait juré qu'à Beaumont, les gens ne fermaient jamais leurs portes. Je tournais la poignée qui resta désespérément bloquée. J'allais devoir entrer par effraction. Je regardais la porte vitrée de la cuisine, mais elle me parut en verre trop épais pour que j'arrive à la briser sans me blesser. Je retournais à l'arrière de la maison. Il me suffisait de trouver une vitre moins résistante et de la faire exploser d'un coup de coude. Sur une terrasse maçonnée à la va-vite, l'Irlandaise avait installé une pauvre table en teck grisâtre et 3 chaises que le soleil, la pluie et le sel marin avaient totalement abrasées. C'est là que j'eus la bonne surprise de voir qu'un des battants de la porte-fenêtre était resté ouvert. Trop beau pour être vrai ? Je pénétrais dans le salon. Je m'apprêtais à monter à l'étage lorsque j'entendis un bruit. Je me retournais pour apercevoir un dog allemand en train de fondre sur moi. Il s'arrêta à moins d'un mètre en posture d'attaque. Les oreilles en alerte, il me fixait de son regard menaçant en poussant des grondements effrayants. Je voulus battre en retraite, mais ça n'empêcha pas le dog de se ruer sur moi. Dans un effort, je me propulsais en haut des marches, entrais dans la première pièce que je rencontrais et refermais la porte derrière moi, la claquant littéralement au nez du chien. Tandis qu'il se jetait sur le battant avec des aboiements furieux, je repris mon souffle et rassemblai mes esprits. Coup de bol, je me trouvais manifestement dans la chambre que louait Mathilde. C'était une sorte de studio, avec des poutres apparentes en bois clair, hantées par le fantôme de Laura Ashley. Des bouquets de fleurs séchées étaient disposés sur des meubles patinés repeints dans les tons pastels. Mais Mathilde avait configuré le bed and breakfast en une drôle de pièce de travail. Une parfaite war room dédiée à une obsession. Nathan Fowles. Le fauteuil crapaud en velours rose croulait sous les livres et les dossiers. Tandis que le chien continuait à s'exciter derrière la porte, je commençais à compulser les documents. Il était clair que Mathilde Monet menait une véritable enquête sur Fowles. Il n'y avait pas d'ordinateur sur son poste de travail, mais on y trouvait des dizaines d'articles imprimés, surlignés au stabilo. Je connaissais ces papiers. C'était ceux qui sortaient toujours quand on faisait une recherche sur le net. Mathilde avait également annoté les 3 livres de l'écrivain et imprimé de nombreuses photos de Nathan. Notamment des copies d'écran de son dernier passage à l'émission de Bernard Pivot. Pour une raison que j'ignorais, la journaliste avait fait des gros plans sur les chaussures que portait Fowles pendant l'émission. Je regardais ses papiers avec plus d'attention. En se connectant sur des forums spécialisés, Mathilde pensait avoir retrouvé le modèle précis. Je me grattais la tête. À quoi rimait tout ça? L'enquête qu'elle menait sur Fowles s'apparentait à une investigation policière. En ouvrant les dossiers cartonnés qui s'entassaient sur le fauteuil crapaud, je fis une autre découverte. Des photos prises au téléobjectif d'un homme que l'on voyait évoluer dans différents endroits. Un maghrébin d'une bonne quarantaine d'années, en t-shirt et veste en jean. Je reconnus immédiatement le décor, la ville d'Evry. Impossible de se tromper. Un aboiement du dog allemand derrière la porte me rappela l'urgence de la situation. Je me replongeais dans les photos. Elles étaient au redaté du 12 août 2018. Qui les avait prises? Un flic? Un détective privé? Mathilde elle-même? Et surtout, qui était cet homme? Soudain, sur une pause où l'on voyait mieux son regard, je le reconnus. C'était Karim Amrani. Après son séjour en prison, l'ancienne petite frappe s'était apparemment installée dans l'Essonne. Sur d'autres clichés, on le voyait parler avec des mécaniciens entrer et sortir d'un garage dont il semblait être le gérant ou le propriétaire. S'était-il rangé, lui aussi, à l'image d'Apolline? Et, à son tour, sa vie était-elle menacée? J'hésitais à emporter ses documents. Pour ne pas laisser de traces de mon passage, je décidais finalement de photographier les plus importants avec mon téléphone. Les questions continuaient à se bousculer dans ma tête. Pourquoi Mathilde s'intéressait-elle à Amrani? Quel était le lien avec Fowles? Dans l'espoir de le découvrir, j'effectuais avant de partir une fouille plus poussée de la chambre et de la salle de bain. Rien sous le matelas, les tiroirs ou les placards. Je soulevais le couvercle de la chasse d'eau pour en inspecter l'intérieur et sondais le parquet du pied. En revanche, derrière les toilettes, l'une des plaintes sauta dès que je la touchais. Sans trop y croire, je m'accroupis et passai l'avant-bras dans la fente pour y découvrir un épais paquet de lettres retenu par un ruban élastique. Au moment où j'allais les examiner, j'entendis un bruit de moteur. Pris par l'urgence, je pliai le paquet de lettres et le mis dans la poche intérieure de mon blouson, ouvris la fenêtre à guillotine qui donnait sur le toit d'une remise. De là, je sautai sur la pelouse et, les jambes flageolantes, je traversai la route en courant pour récupérer mon scooter. Ce paquet de lettres est signé Nathan Fowles. Elles ont été écrites il y a bien longtemps et semblent, d'une manière ou d'une autre, reliées à cette femme retrouvée morte sur l'île et à ce Amrani. Mais le lien est ténu et l'histoire bien glauque. Malgré les injonctions de l'écrivain demandant finalement à Raphaël de laisser tomber et de rentrer chez lui, le jeune auteur reste sur l'île et découvre le secret qui lie tout ce beau monde, au péril de sa vie.
L'actu des bibliothèques.
Ce samedi, c'est Le Versou qui vous accueille pour les fabuleuses légumineuses. Des expériences et des manipulations pour découvrir leurs propriétés, leurs particularités et leurs apports nutritionnels. Aux côtés de Karine Gobeau, la médiathèque accueille gratuitement, mais sur inscription préalable, un public familial dès 6 ans, ce samedi 17 à 10h30. Un rendez-vous science et malice à ne pas manquer.